Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, dans les Haut-Katanga, le centre d'hébergement des enfants à rupture familiale de Lukuni est à l'abandon pendant que le nombre d'enfants ne cesse d'augmenter dans les rues de Lubumbashi. Le ministre provincial du genre, famille et enfants l'a visité dans la perspective de sa réhabilitation. Et puis, ce cri d'alarme de la société civile du Nord Kivu sur la situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique pénible que traverse la province. Elle plaide pour l'accélération du processus de la réserve armée de la défense. Vous suivrez son coordonnateur, Pépin Paloukou. Notre invité, le docteur Edouard Kahatoua, chirurgien, cancérologue à l'hôpital général La Charité Maternelle de Goma. Il parle des risques sanitaires liés à l'inhalation des fumées issues des combustions du plastique. Encore une fois, merci d'être avec nous, Pierre Diassinois sur la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Direction Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où le centre d'hébergement des enfants en rupture des liens familiaux de Lukuni, situé à 25 km de Lubumbashi, se trouve dans un état d'abandon. La ministre provinciale du genre, famille et enfants a visité ce centre vendredi dernier pour faire un état des lieux dans une perspective de sa réhabilitation par le gouvernement provincial. Jadis, le centre de Lukuni hébergeait une grande partie des jeunes désœuvrés de la ville de Lubumbashi. Le point avec Paul Mounanga.
Premier constat, l'intendance où sont gardés les vivres du centre de Lukuni, les salles de cours, la salle de cinéma, les dortoirs, les bureaux du superviseur et les secrétariats sont délabrés. Ces infrastructures ont été pillées par les anciens pensionnaires qui réclamaient leur réinsertion dans la société. La borne-fontaine ne fournit plus de l'eau. Elle est à l'arrêt à la suite d'une panne technique. Un enfant vivant dans ce centre expose les difficultés. Avec un seul habit, il peut pleuvoir et vous dormez avec ces mêmes habits mouillés. Les poux peuvent vous envahir. Si on peut nous assister avec les habits et les babouches. En outre, nous manquons de l'eau potable. Et puis nous nous ennuyons. Si on installait les courants au centre pour nous permettre de nous distraire. Pour rappel, il y a quelques années, Lukuni présentait une image d'un centre d'hébergement digne pour des enfants en difficulté. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga qui gère ce centre avait lancé à l'époque l'opération Zéro Enfant Sans Abri, une initiative qui avait permis de récupérer des centaines d'enfants en rupture familiale issus des rues de Lubumbashi et qui vivaient dans la précarité. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Un peu plus loin, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, plus de 7500 personnes fouillant les atrocités des rebelles EDF dans les territoires de Mambasa, Bandenga, Idio et Nyanya sont arrivés depuis environ une semaine à Bafouassendé. Dépourvus de tout, ces déplacés vivent des conditions précaires au sein des familles d'accueil. Promiscuité, manque de nourriture et risque de maladies font désormais partie de leur quotidien. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
Les derniers déplacés ont fait leur entrée dans le territoire vendredi dernier. Sur place, la solidarité de la population locale est mise à rude épreuve. Contrairement à d'autres zones, les déplacés ne sont pas regroupés dans des camps, mais partagent le quotidien des habitants. Dans certaines parcelles, on compte plus de 60 personnes, indique Willy Simbié, administrateur du territoire de Bafouassendé.
En tout cas, l'assistance, c'est ce qui est vraiment prioritaire. Hein? L'assistance alimentaire, les ustensiles de ménage. Ce que je redoute, l'ennemi profite parfois à de telles occasions, il peut y avoir infiltration.
Outre la faim, la peur d'une infiltration rebelle hante les esprits. Face à cette menace, l'autorité territoriale appelle à un renforcement immédiat du dispositif sécuritaire. Pour Willy Simbié, les effectifs actuels sont largement insuffisants pour couvrir l'ensemble du territoire.
À mon staff de sécurité de multiplier la vigilance et aux autorités de renforcer l'armée chez moi pour que, en cas de problème, tout soit réglé dans un laps. Pour les militaires, c'est quand même bien parce que j'ai tout un bataillon. Ce que je vais demander, c'est de les équiper.
Un appel à l'aide humanitaire et sécuritaire est ainsi lancé pour éviter que le territoire de Bafouassendé ne sombre à son tour dans le chaos. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, la campagne de collecte des fonds destinée à soutenir les femmes vendeuses opérant sur le campus de l'université officielle de Mbujimayi, IOM, s'est clôturée hier samedi. Cette activité, inscrite dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme, a permis à l'IOM de collecter déjà plus de $3,000 américains sur les $5,000 attendus. La cérémonie de clôture de cette campagne a été présidée par les gouverneurs de province dans l'amphithéâtre de l'IUM en présence des bénéficiaires et des autorités académiques. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon le recteur de l'UOM, le professeur Abbé Apollinaire Tshibakati-Kongo, près de 5 000 $ seront distribués dans les prochains jours à une cinquantaine de femmes vendeuses de produits vivriers essentiels, notamment les bananes, beignets, arachides, eaux et boissons sucrées, qui assurent quotidiennement les services aux étudiants et au personnel académique.
L'idée pour nous, c'est dire d'abord merci aux mamans. Qu'on les veuille ou pas, ils font partie de cette université. On voudrait aussi les aider dans la formation à la gestion, à l'hygiène, parce qu'elles nous donnent des choses que nous mangeons, mais surtout appuyer aussi leur petit capital.
Parmi les femmes concernées, Thérèse Nsalanga a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour cette initiative qui, selon elle, vient renforcer la capacité économique et sécuriser ses activités sur le campus.
Je remercie M. Tshibaka pour son bon cœur, pour avoir pensé à soutenir toutes les femmes qui vendent des petites choses sur le campus. J'ai une immense joie pour cette initiative.
En 2024, l'université avait organisé une collecte en faveur des femmes de l'Est du pays. En 2025, l'effort avait été orienté vers les femmes de Katanda. Cette année, l'attention est portée sur celles qui, chaque jour, offrent des services essentiels à la vie du campus. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent à Ituri. Même si les nouvelles technologies évoluent rapidement, tout le monde n'en bénéficie pas de la même manière. C'est le cas des personnes malentendantes, communément appelées sourd-muets. Comment communiquent-elles à l'aide du téléphone, devenu aujourd'hui un véritable outil pédagogique? Une utilisation souvent limitée aux messages écrits et aux images, faute de pouvoir passer des appels vocaux ou d'envoyer des messages audio. Christelle Aïchi a visité une école spécialisée et nous propose ses reportages depuis Bounia.
Dans cette école dédiée à l'éducation des personnes malentendantes, la technologie s'impose progressivement dans les quotidiens des apprenants. Smartphones, tablettes et applications spécialisées sont désormais utilisées comme outils complémentaires à l'enseignement. Selon Tomo Kabagambe Bamugara, directeur de l'école des malentendants à Bounia, nos élèves dépendaient presque entièrement de la langue des signes en présentiel. Aujourd'hui, grâce au téléphone, ils peuvent communiquer à distance. Apprendre à même se former de manière autonome, déclare-t-il.
Si un enfant sur un téléphone, ils peuvent entrer là où il y a beaucoup d'applications, comme tout le monde. Ils peuvent manier le téléphone, ils peuvent entrer dans des applications. Mais pour la communication comme telle, ils peuvent utiliser surtout les textos.
De son côté, Bugasa Kikwami, enseignant spécialisé, souligne l'impact positif de la technologie sur l'apprentissage. Les téléphones servent désormais des supports pédagogiques au quotidien.
Nous avons des méthodes avec lesquelles nous sommes en train de les apprendre et d'utiliser ça. Ils sont capables de faire tout.
Cependant, ces outils restent coûteux et la plupart des personnes malentendantes ont du mal à s'en procurer. Bounia, Christelle Aïchi, Radio Okapi.
Et puis, au moins 23 millions d'enfants sont attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polio prévue du 22 au 26 avril prochain dans les 515 zones de santé de la RDC. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la Semaine africaine de la vaccination qui vise au moins 23 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans. Lors d'un briefing de presse vendredi dernier à Kinshasa, le directeur adjoint du programme élargi de vaccination a appelé à l'implication de toute la communauté, notamment des médias et des leaders d'opinion, pour assurer la réussite de cette campagne vaccinale. Les propos du docteur Augustin Milabio ont été recueillis par Blaise Nongala Mayanda.
La rubéole, la rougeole avec la poliomyélite va se dérouler dans 11 provinces. Les 11 provinces qui sont concernées par la rubéole, la rougeole et la poliomyélite sont Congo central, la ville province de Kinshasa, les Kwango, Kwilu, Maindombe, l'Équateur, la Mongala, le Nord et les Sidoubangi. Ainsi que la Tchoko. La campagne polio, c'est jusqu'à 5 ans. Et pour la campagne rougeole et rubéole, c'est jusqu'à 14. En dehors de ces 11 provinces, les autres provinces vont vacciner pendant la campagne de masse seulement avec la polio. 23 millions d'enfants, nombre d'enfants que nous voulons. Et ces enfants sont âgés de 6 mois à 14 ans. Pour que un enfant puisse grandir, l'épargner de tout ce qui est maladie, on a mis en place dans les systèmes de santé la prévention. Et la prévention pour les enfants tourne autour d'abord de la vaccination. Il y a plusieurs stratégies. Les plaidoyers, auprès des autorités politico-administratives ou les leaders religieux, communication interpersonnelle, mobilisation sociale.
Nous voulons vraiment que vous puissiez nous accompagner dans les processus pour atteindre une grande proportion de nos parents, les gardiens d'enfants.
Au Nord Kivu, je le disais dans le titre, la coordination provinciale de la société civile tire la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique sur l'ensemble de la province. Dans une déclaration rendue publique vendredi dernier à Moussieniene, dans les territoires de Lubero, cette structure citoyenne affirme que plusieurs entités de la province restent confrontées à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, dont les rebelles des EDF et de l'AFC M23. Une situation qui, selon elle, affecte les activités économiques, fragilise les circuits d'approvisionnement et accentue la vulnérabilité des milliers de ménages, notamment des personnes déplacées. Pépin Paluku Kavota est son coordonnateur. Je vous propose de l'écouter.
Au regard des événements sur terrain caractérisés par l'activisme des terroristes ADF-MTN, l'agression du pays par l'armée rwandaise sous le label du M23 AFC, les déplacements des populations internes et sans assistance appropriée, l'installation des administrations parallèles, recrutement forcé de jeunes, le musellement, assassinat, meurtre, les menaces contre les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, les enlèvements, remplacement des autorités coutumière par les animateurs rebelles, multiplicité des taxes, occupation forcée de terres, maisons et arrestations arbitraires dans les zones occupées par les rebelles M23 AFC. Les incendies des villages, les massacres silencieux des populations civiles dans certaines entités par les ADF.
Face à cette situation et parmi les différentes recommandations, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement d'accélérer les processus de la réserve armée de la défense, RAD. Elle recommande également l'application des résolutions 2773 et 2808 des Nations Unies. Retour en Ituri où les FRDC ont récupéré jeudi dernier Virginia dans les territoires de Djougou, un lot important d'armes et de munitions attribué au groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Par ailleurs, un leader de cette milice, également autorité coutumière locale, a été arrêté à Mahagiport dans les territoires voisins de Mahagi. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à la collaboration de la population qui a dénoncé ces rebelles. Une action saluée par les autorités militaires pour la consolidation de la paix dans cette province. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Selon l'armée, il s'agit de 10 armes de type AK-47 accompagnées de munitions de guerre et de 27 chargeurs. Le porte-parole de l'armée en Ituri précise que cette découverte est le résultat des opérations militaires en cours dans la région visant à traquer les miliciens. Il souligne également les rôles déterminants de la population de plus en plus lassée par la guerre. Par ailleurs, un leader de cette milice, ancien chef de groupement de Djaïba, a été arrêté en début de semaine à Mahagiport. Il est revenu de l'Ouganda lorsqu'il a été dénoncé par des habitants. L'armée encourage la population à continuer de soutenir ses efforts pour consolider la paix en Ituri. Elle appelle également les miliciens encore actifs impliqués dans des exactions contre les civils à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Les forces aux armées, encore une fois de plus, viennent de récupérer ces armes. C'est le fruit d'une parfaite collaboration et la prise de conscience de certains jeunes. C'est un message fort lancé à Thomas Lubanga et tous ses adeptes. Et nous les appelons à déposer les armes et à se rendre aux forces aux armées.
Signalons que ce n'est pas pour la première fois que l'armée découvre des caches d'armes appartenant à la milice CRP. Certains de ces combattants ont déjà intégré le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, le PDDRCS. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kinshasa, l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre le marché de Selembao et l'Université pédagogique nationale, est dégradée. Des initiatives privées pour rendre praticable cet accès routier ont montré leurs limites. Cette situation ne perturbe pas seulement l'approvisionnement de Kinshasa en vivres depuis le Congo central, non plus les déplacements des étudiants vers l'université ou encore le transfert des détenus entre la prison centrale de Makala, CPRK, et l'hôpital sanatorium, mais aussi impacte négativement le quotidien de ceux qui habitent dans les environs. Les détails dans ce reportage signé Elaché Mbalukomba.
Sur l'avenue de la Libération, les signes de dégradation sont visibles. De l'avenue Mpanzu, près de la station Selemba au rond-point de l'Université Pédagogique Nationale, en passant par Manifeste 24, Liboulou Kitokimosi ou encore l'arrêt Camping, la chaussée est endommagée. Nuit des poules, boue et eau stagnante rendent la circulation difficile, voire impossible, surtout après la pluie. La plupart des conducteurs à l'approche de ce tronçon ont les cœurs serrés car il n'est pas aisé d'y rouler. Les chauffeurs ralentissent la vitesse pour ne pas endommager leur véhicule. L'un d'eux exprime son désarroi.
Il n'y a même plus moyen pour le véhicule de pouvoir viser cette date. Si vous avez un véhicule de type bas, carrément impossible de pouvoir passer ici.
Cette situation n'est pas sans conséquence pour les usagers. Aux aires de pointe sur le véhicule qui transporte les marchandises et autres taxis et taxibus s'engouffrent dans les embouteillages. Le vendeur du marché des Selemba, qui sont souvent approvisionnés par ces camions en provenance du Congo central, se plaint souvent du retard avec lequel les marchandises leur sont fournies.
Nous chauffons vraiment, c'est une roue qui nous aide dans beaucoup de choses. Donc on a des véhicules qui proviennent souvent de Bas-Congo.
Face à cette situation devenue intenable, les usagers espèrent désormais une intervention urgente des autorités. Avant que cette taxe vitale ne soit totalement impraticable.
Actualité internationale.
Alors que la guerre au Soudan est entrée dans sa quatrième année, les réfugiés soudanais ayant fui vers les pays voisins font face à de grandes difficultés. Des difficultés dues notamment à la baisse drastique de l'aide étrangère des États-Unis début 2025. Sur les 4,5 millions de Soudanais ayant fui et franchi les frontières du Soudan, près de 450 000 se sont réfugiés au Soudan du Sud, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR. L'un des camps qui les accueille est celui de Gorom, près de Juba, la capitale sud-soudanaise. Près de 20 000 réfugiés soudanais y résident dans des conditions de plus en plus précaires.
L'invité.
L'invité de ce journal est le docteur Edouard Kahatwa, chirurgien cancérologue à l'hôpital général La Charité Maternelle de Goma. Il parle des risques sanitaires liés à l'inhalation des fumées issues de la combustion du plastique. Docteur Edouard Kahatwa répond depuis Goma aux questions de Bernard Denyangui.
Docteur Edouard Kahatwa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, docteur, il y a une organisation locale basée à Goma qui a fait un constat selon lequel il y a non seulement certains ménages, mais aussi certaines industries locales qui utilisent les bouteilles en plastique pour faire soit la cuisson ou comme une combustible pour peut-être même cuire les pains. Est-ce que une telle pratique peut entraîner des conséquences sur le plan de la santé?
En tant que cancérologue, j'aimerais bien sûr lancer une sonnette d'alarme par rapport à la fumée issue de la combustion des plastiques. La fumée de plastique a été incriminée comme cancérogène, donc une fumée qui peut induire le développement de certains cancers lorsqu'on l'a inhalé. Ce n'est pas à dire qu'on l'a inhalé aujourd'hui et qu'on va développer demain un cancer. Le développement du cancer est un processus multi-étapes qui prend du temps. Vous pouvez être soumis à cette fumée pendant un certain nombre d'années et plus tard développer un cancer. Et les cancers induits par inhalation de fumée de plastique ou bien ceux qui travaillent dans les industries pétrolières, ils sont exposés à certains cancers. On peut citer les cancers bronchopulmonaires. Il y a aussi les leucémies qui sont les cancers du sang. Il y a aussi les cancers de la vessie. Il a été incriminé, autour de 30% des leucémies sont dues à cette inhalation de fumée de plastique. Même si la population ignore les risques, bien sûr, mais nous sommes là pour informer, pour sensibiliser, parce que le cancer est un fléau et que lorsque le cancer a été initié, il se développe et prend une progression. Et le soigner le cancer, ce n'est pas chose aisée.
À part le cancer, cela peut entraîner le développement d'autres maladies.
Exactement. Lorsqu'on inhale la fumée, lorsqu'il y a aussi un autre cofacteur qu'on parle de le tabagisme qui peut être actif ou passif, le tabac aussi vient fragiliser. On peut citer d'autres maladies comme les bronchopneumopathies et autres maladies qui peuvent être aussi liées à l'inhalation de cette fumée issue de la combustion des plastiques. Et par ailleurs, Lorsqu'on travaille dans des industries pétrolières, là, ce sont ce type de maladies qu'on parle de maladies professionnelles, donc une maladie liée à la profession que tu exerces. Ceux qui exercent dans des boulangeries, lorsqu'ils sont soumis à cette fumée-là, dans ces cadres-là, lorsqu'ils devront développer une maladie liée à l'inhalation de cette fumée-là, on va classer cette maladie en maladie professionnelle.
Est-ce que dans cette fumée, il y a certains agents particuliers qui peuvent être à la base de telle maladie?
Oui, il y a des agents particuliers. Lorsque le plastique se décompose sur base de la chaleur, lorsqu'on brûle le plastique, il y a des composés toxiques qui se dégagent. Notamment, on peut citer les dioxines, les hydrocarbures de furane, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et même du benzène. Bien sûr que l'organisme peut évacuer ces toxiques, mais lorsque l'organisme est fatigué à évacuer ces toxiques, c'est à ce moment-là qu'il s'accumule dans l'organisme et induit transformation de la cellule normale en une cellule cancéreuse. C'est un processus multi-étape.
Pour terminer, docteur, quel est le message ou le conseil que vous pouvez donner à la population? Parce que bon, parfois aussi, il y a les gens qui recourent à de telles pratiques à défaut d'avoir les moyens, peut-être pour se procurer le nécessaire, peut-être pour se procurer le bois de chauffe.
Le mieux serait d'éviter ce genre de pratiques. À défaut du mieux, on devait se protéger. On peut porter un masque, mais à moindre mesure, il y a un peu de toxines qui passent à travers les masques, mais le mieux serait d'éviter. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir parce qu'on ne s'expose pas non seulement seul, et on expose aussi son entourage. Donc c'est là, c'est une mauvaise pratique, mais à défaut du mieux, protégeons-nous.
Docteur Edouard Katoa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le chirurgien cancérologue à l'hôpital général La Charité Maternelle de Goma. Docteur Edouard Katoa répondait à Goma aux questions de Bernard Denyangui. Fin de ce journal qui a été préparé par Jean Gandou et Richard Junior Kamunga. Pierre Dessinois a assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.